Dans les dernières années, l'importance de l'alimentation saine dans la prévention de diverses maladies et dans le maintien d'une santé qui est optimale, qui est globale, a pris beaucoup de place. La majorité d'entre nous, on arrive à assez bien gérer ça, à faire des bons choix pour notre santé, également pour notre plaisir. Pour les orthorexiques, ça peut devenir obsessif, plus problématique. J'en parle avec Marilène Dion, elle, coordonnatrice clinique à l'ANEB Québec. Merci d'être là, Marilène.
Merci, bonjour.
Bonjour. Donc, l'orthorexie qui, moi, je décrirais, et bien sûr, vous me reprenez si je me trompe, comme de la rectitude alimentaire. Est-ce que c'est un bon terme?
Oui, tout à fait. En fait, l'orthorexie, c'est en quelque sorte une obsession d'adopter des comportements alimentaires sains. Donc, toute la vie, tout le mode de vie, c'est en lien avec la bonne alimentation et l'adoption de comportements alimentaires qui vont être sains.
Mais il faut quand même faire une nuance parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à la nourriture saine, c'est-à-dire qu'ils vont avoir envie de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des bons grains, des bonnes huiles, mais que si, par exemple, on leur sert quelque chose qui n'est pas bio, quoi que ce soit, ils vont quand même en manger avec plaisir. Il y a une nuance à faire.
Oui, tout à fait. En fait, surtout la société actuelle, il y a une grande vague qui s'installe pour que les gens adoptent des comportements qui sont sains. D'aller au gym, de faire du sport et également au niveau de l'alimentation. Donc, on vise à adopter un comportement alimentaire sain et ce n'est pas ça la problématique. C'est quand toute la vie tourne autour de ça et que ça devient obsessif, qui là, ça commence à avoir un problème à ce moment-là.
L'orthorexie, c'est important de le dire, c'est pas considéré comme un trouble alimentaire.
Pas encore. Ça ne fait pas partie du manuel de diagnostic des maladies mentales, le DSM-5. C'est une tendance qu'on a vue naître à la fin des années 90. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé socialement à adopter un discours autour duquel c'est important d'adopter ce genre d'attitude alimentaire-là. L'industrie des régimes est rentrée également dans la vie quotidienne de bien des gens. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à voir naître cette obsession-là, cette restriction-là alimentaire. Qui peut causer bien des dommages.
Oui. Donc, pas un trouble alimentaire, mais bel et bien une obsession, on peut le dire, de cette façon-là. Selon vous qui êtes en clinique, donc qui rencontrez des gens tous les jours qui souffrent de différents troubles alimentaires, est-ce que l'on devrait considérer bientôt l'orthorexie comme un trouble alimentaire?
Certainement. En fait, les tendances, les études qui commencent à avoir lieu en lien avec cette problématique-là démontrent qu'il y a un réel problème, qu'il y a une inquiétude à avoir et éventuellement, ça fera partie des troubles alimentaires qu'on pourra diagnostiquer là, quand on va consulter un médecin ou un psychiatre.
Oui. Maintenant, est-ce que vous le savez, Marilène, si les spécialistes de la santé, là, je pense par exemple à des médecins de famille, c'est-à-dire les spécialistes qu'on rencontre souvent en premier lieu avant d'être référés, sont au courant de cette problématique-là qui est de plus en plus courante dans la société?
Certainement que certains professionnels sont au courant et sont à l'affût de ce genre de comportement alimentaire-là qui serait problématique et d'autres probablement moins. Parce que ce trouble alimentaire-là s'insère très bien dans le discours comme quoi c'est important d'avoir des bonnes habitudes, c'est important de ne pas avoir de surplus de poids. Hein?
Ouais.
On va chez le médecin et parfois, c'est le genre de commentaire qu'on va avoir, qu'on va recevoir. Il faut adopter des bonnes habitudes, il faut perdre du poids.
C'est bien vu, finalement.
Tout à fait. Et puis, la personne orthorexique va pouvoir adopter ce discours-là pour pouvoir justifier ces comportements-là. Et souvent, le trouble peut passer inaperçu.
Oui. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce qu'on a des chiffres? J'imagine la prévalence est difficile à établir, là, qu'on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais est-ce qu'on a une idée?
Effectivement, il y a très peu d'études sur le sujet. Je sais que la communauté scientifique se mobilise de plus en plus. Je lisais une étude justement qui faisait ressortir une prévalence qui était quand même assez élevée. Donc, il faudrait voir peut-être tout le processus de sélection et la méthodologie de l'étude. Alors, on parlait autour de 6% de la population. Alors que les autres troubles de comportement alimentaire, la prévalence, elle est moindre. Donc, c'est assez préoccupant.
Est-ce que l'on sait si ça touche davantage les garçons, les filles?
Comme les autres troubles alimentaires, on rencontre que c'est davantage les femmes qui seraient à risque de développer ce genre de troubles-là. Par contre, on le retrouve évidemment chez l'homme. Encore là,
Les
les
chiffres
troubles
sont pas
alimentaires
clairs.
chez les hommes, c'est encore tabou. On n'entend pas beaucoup parler. Les dévoilements sont peut-être moins importants que chez les femmes, mais ça, on le retrouve également là, chez les hommes, certainement.
Quel est le processus pour diagnostiquer l'orthorexie chez quelqu'un? Quels sont les critères qu'on va observer?
En fait, puisque ce n'est pas un diagnostic qu'on peut poser clairement, actuellement, il fait partie des troubles alimentaires non spécifiés. Donc, il fait partie d'une généralité de troubles alimentaires. Par contre, il y a le test de Bratman, un des chercheurs qui a été à l'affût de cette difficulté-là à la fin des années 90. Donc, c'était un des premiers préoccupés par ce genre de comportement-là. Il y a un test qu'on répond par oui ou non pour évaluer justement les habitudes alimentaires. Ce qu'on va aller voir, c'est tout d'abord la relation face à la nourriture. Est-ce qu'il y a un plaisir autour de l'alimentation où on est davantage dans la restriction, dans les règles alimentaires qui vont être très strictes, des aliments interdits, et puis aussi au niveau des habitudes sociales. Est-ce qu'on a tendance à s'isoler? Est-ce qu'on refuse, par exemple, d'aller dans les restaurants ou dans des soupers entre amis parce que tout ce contexte-là, on va avoir quelque chose dans son assiette dont on ne connaît pas nécessairement la provenance, qui l'a apprêté, comment l'a apprêté, le nombre de calories associées. Donc, c'est toutes des préoccupations qui vont faire en sorte que la personne va s'isoler.
Parce qu'elle n'a pas le contrôle de son assiette et des aliments qu'elle ingère. D'ailleurs, d'après ce que je lisais, c'est pas mal l'une des facettes qui est touchée en premier lieu, tout le contexte social. Je lisais sur le site d'Extenso un exemple très, très probant d'un jeune orthorexique qui refusait de consommer des fruits et des légumes s'ils n'avaient pas été cueillis dans les 15 minutes parce qu'il considérait qu'après 15 minutes, le fruit ou le légume donc, est moins nutritif. Il a déjà commencé à se détériorer. Donc déjà, c'est un exemple que j'avais envie de mentionner parce que je le trouvais très révélateur. Il y a d'autres exemples comme ça, Marie-Hélène?
En fait, vous apportez un exemple fabuleux. Il y a la préoccupation de tout le processus alimentaire. Ça va de la façon dont l'aliment va avoir été cueilli, élevé, modifié, et également à la façon de l'apprêter, à l'outil qui va avoir servi à le cuire, à le couper. Temps de cuisson, jusqu'à quel temps de cuisson on va aller obtenir tous les nutriments qu'on peut en retirer. Donc, il y a toute une planification autour du processus alimentaire qui va prendre plusieurs heures dans la journée. Donc ça
j'imagine,
prend beaucoup de place.
Oui, j'imagine qu'un indice, c'est si on pense toujours à notre prise de repas, à qu'est-ce qu'on va manger, à qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, à ce qu'on va acheter au marché, ça nous tourne souvent dans la tête, ça peut être déjà un petit signal d'alarme, là, la façon dont on pense à l'alimentation et combien de temps ça prend dans notre journée.
Tout à fait. Et puis, à passer autant de temps à planifier tout ça, bien, il ne reste plus beaucoup de temps pour les autres activités de la vie, vous en conviendrez.
Oui. J'imagine que ça n'arrive pas du jour au lendemain, l'orthorexie, que ça doit s'installer dans un processus. Est-ce que ça commence ou est-ce que c'est une, la cause, c'est les médias, justement, qui nous assaillent de plein d'informations?
Mais avec tous les programmes liés à l'adoption de saines alimentations, de comportements alimentaires qui sont sains, c'est certain que ça accentue le discours par rapport à ça. En fait, on remarquerait apparemment une incidence entre la préoccupation de la santé publique face à l'adoption de comportements sains versus l'importance que le trouble peut prendre dans la vie de la population. Donc, ce serait lié à la préoccupation du système public, là, tout à fait.
Et l'un des dangers, j'imagine, avec l'orthorexie, c'est que ça peut s'apparenter à un trouble alimentaire qui est l'anorexie, qu'on connaît beaucoup, qu'on connaît bien, parce que si on élimine certains aliments de l'assiette parce qu'on ne les considère pas assez nutritifs ou pas assez santé pour nous, ben j'imagine qu'à un moment donné, il ne reste plus grand-chose, donc on diminue nos portions.
Tout à fait. Bien, en fait, si on peut faire le parallèle avec l'anorexie mentale, parce qu'il y en a un, oui, la personne qui vit l'anorexie mentale, sa préoccupation, son obsession va être davantage en lien avec la quantité des aliments qui va être ingérée versus la personne qui vit de l'orthorexie va être obsédée par rapport à la qualité des aliments qui vont être ingérés. Mais l'aspect de contrôle qui va s'installer pour pouvoir respecter ces règles-là que la personne va savoir elle-même imposer est sensiblement le même.
Oui. On l'a dit tout à l'heure, puisque ce n'est pas considéré comme un trouble alimentaire, on ne pose pas de diagnostic. Par contre, est-ce qu'il y a des traitements?
Bien, en fait, on procède environ de la même façon qu'avec tous les autres troubles alimentaires. Parce que quand on aborde la question des troubles alimentaires, la difficulté, le problème ne se retrouve pas dans l'assiette. Donc, il se retrouve généralement en dessous de l'assiette. C'est souvent ça qu'on dit. Donc, c'est un problème qui est davantage au niveau de la gestion des émotions, des difficultés relationnelles. Donc, comment on procède, c'est qu'on va voir à la source à quoi ça va servir à la personne d'installer ce genre de comportement-là, parce qu'il y en a du positif, puis ça sert à quelque chose.
Oui, ben d'avoir une préoccupation à savoir ce que l'on ingère quotidiennement. J'imagine que le danger, c'est quand on veut contrôler aussi ce qui se passe dans la famille, c'est-à-dire qu'est-ce que mangent nos enfants, le conjoint ou bon, même nos parents. Est-ce que ça on peut l'observer, ça, chez des orthorexiques qui ont envie de contrôler tout ce qui se passe?
Tout à fait. Ça rentre dans la même lignée que tous les troubles alimentaires. Ce n'est pas rare de voir qu'une personne qui en souffre va gérer tout ce qui se passe dans la cuisine et va contrôler le reste de l'alimentation de la famille.
Oui, et là, ça peut devenir un risque là, davantage, surtout, je pense, du point de vue des enfants, là. De ce point de vue-là, Marie-Hélène, on fait comment pour bien filtrer les informations qu'on reçoit? Est-ce que vous avez des petits trucs, des petits conseils pour nos auditeurs, des recommandations avec tout ce que l'on entend par rapport à la nutrition?
Qu'est-ce que vous voulez dire exactement de
ben,
filtrer?
Parce que ce que l'on dit depuis tout à l'heure, c'est que l'orthorexie, c'est un phénomène qui s'est installé parce qu'on a accès énormément à de l'information du point de vue des médias et qui peut peut-être influencer notre rapport à la nourriture. Maintenant, pour le grand public qui nous écoute, comment on arrive à filtrer tout ce qu'on entend et à garder peut-être pas nécessairement un détachement, mais la tête haute de ça et se dire « OK, ben, je peux manger en étant relax
». Bien, en fait, c'est d'adopter une attitude critique par rapport à l'alimentation, parce que ce qu'on voit des personnes qui vont développer le trouble d'orthorexie, c'est d'apporter les recommandations qui vont être entendues dans le discours « adopter un comportement alimentaire sain », mais ça va être de le pousser à l'extrême. Donc, ça va être, on va voir des bons et des mauvais aliments qui vont s'installer. On va en retirer complètement. Sauf qu'adopter des comportements alimentaires sains, c'est de s'accorder droit à tous les aliments, c'est de ne pas se restreindre. Je pense que c'est de voir la zone de gris. Parce que les personnes qui vont être autorexiques vont être très rigides. C'est blanc ou c'est noir. Il n'y a pas de juste milieu à ce moment-là.
Et de faire peut-être attention aux appellations aliments magiques ou aliments miraculeux qu'on entend beaucoup
tout
en ce
fait.
moment dans le discours. Et puis de penser que ça guérira tous nos maux. Maintenant, on consulte si on s'inquiète pour soi ou pour un proche. On se dirige vers qui?
Mais en fait, nous, chez ANEB Québec, comment on voit ça? C'est qu'à partir du moment où il y a une préoccupation en lien avec la nourriture, en lien avec les comportements alimentaires, c'est d'aller à la source, d'aller s'informer, d'aller voir qu'est-ce qu'il en est, de quoi il en retourne. Et puis, vous pouvez nous contacter, nous, chez ANEB. On a une ligne de soutien, une ligne d'écoute. Une ligne de référence. Donc, on peut regarder avec vous. On ne pose pas de diagnostic, mais on regarde quelle est la souffrance et puis comment on pourrait travailler dessus
Et vous
en donnant des
diriger, et diriger
références.
les gens.
Tout à fait.
Autant pour les adolescents que pour les adultes. www.anebquebec.com. Marilène Dion, coordonnatrice clinique à l'ANEB Québec. Merci beaucoup. Ça a été très éclairant.
C'est un plaisir.